Le journal vous est présenté par Laura Laven.
Bonsoir. Le budget italien à revoir. La Commission européenne adresse à l'Italie une fin de non-recevoir. Le budget 2019 en l'état représenterait un dérapage sans précédent. Les explications, les réactions depuis Rome dans un instant. Et puis on aura à faire un tour du côté de la frontière américano-mexicaine. Le président Donald Trump menace de la fermer pour éviter le passage de migrants. Dans les faits, c'est surréaliste. Dans l'idée, c'est totalement politique. Des défections en cascade, Riyad isolée, fragilisée par l'assassinat présumé du journaliste Jamal Khashoggi. La crise est diplomatique, elle est économique. On en parle avec notre invité, l'expert du Moyen-Orient, David Rigouleros, dans ce journal. En France, on entendra la colère des retraités dans la rue pour la quatrième fois. La colère aussi de Jean-Luc Mélenchon. Auditionné dans l'enquête sur ses comptes de campagne, il se dit victime d'un traquenard gouvernemental. Un dérapage sans précédent. La Commission européenne épingle l'Italie et son budget pour 2019. Un projet qui creuserait un peu plus la dette italienne, à en croire Pierre Moscovici. Dans une lettre adressée à Rome, le commissaire à l'économie demande des clarifications avant lundi midi. Une demande cordiale mais ferme, Mathilde Lamberti.
Il n'y a ni jeu politique ni discrimination. L'Italie est traitée comme les autres, doit préciser d'emblée Pierre Moscovici, dans un climat toujours plus tendu entre Rome et Bruxelles. Le fait est que le projet de budget italien enfreint les règles européennes, détaille le commissaire aux affaires économiques. Un déficit à 2,4%, très éloigné des 0,8% promis par le gouvernement précédent et aucune garantie sur la réduction de la dette.
Quand nous parlons de sans précédent, je suis commissaire aux affaires économiques et financières depuis maintenant 4 ans. Et c'est vrai que nous n'avons jamais eu un tel écart en matière de déficit structurel entre ce qui était demandé et ce qui est prévu. Nous ne sommes pas là pour intervenir dans le contenu des politiques publiques italiennes. Nous sommes favorables à des politiques qui soutiennent la croissance et l'emploi. Mais nous voulons aussi qu'elles soient capables de réduire la dette et de promouvoir l'investissement qui est nécessaire pour la promotion de l'avenir.
Pierre Moscovici a remis la lettre de la Commission en main propre au ministre de l'économie italien. L'Italie doit répondre à ses observations d'ici lundi prochain. « Je ne suis pas monsieur pronostic », a répondu Pierre Moscovici à la presse, qui l'interrogeait sur la possibilité de rejet du budget italien, ce qui serait une première dans l'histoire de l'Union européenne. Du côté du gouvernement italien, pas le moindre signe d'infléchissement pour le moment.
À Rome, Mathilde Imberti pour France Culture. Nous serons intraitables face aux fraudeurs, c'est une promesse de Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes Publics réagit au scandale d'évasion fiscale révélé aujourd'hui. Selon 19 médias dont le journal Le Monde, plusieurs pays européens, la France comprise, seraient victimes d'un vaste système de manipulation, fraude et optimisation. Un système opéré par des banques et des fonds financiers sur les dividendes. Le manque à gagner s'élève à 55 milliards d'euros d'impôts perdus pour les pays concernés, l'Allemagne en tête. Aux États-Unis, Donald Trump menace de fermer sa frontière avec le Mexique. Dans un tweet, il demande en lettres capitales aux Mexicains de stopper cet assaut. Cet assaut, c'est un groupe d'environ 2 à 3 000 migrants qui a quitté le Honduras samedi dernier pour monter vers le nord. À Washington, les explications de Grégory Phillips.
Comme au printemps dernier, des centaines de personnes ont décidé de quitter leur pays, en l'occurrence cette fois le Honduras, et de monter ensemble vers les États-Unis pour tenter d'y trouver refuge. La caravane de 2 à 3 000 personnes se trouve désormais au Guatemala et fait route vers le Mexique. Il n'en faut pas plus à Donald Trump pour dénoncer un assaut lancé contre les frontières américaines. Cette caravane, écrit le président, est composée de nombreux criminels et délinquants. Trump menace non seulement d'envoyer l'armée, mais aussi de fermer la frontière du Sud. Ce qui paraît bien peu réaliste, avec 200 millions de passages par an, la frontière entre les États-Unis et le Mexique est la plus fréquentée au monde. Pour Trump, ce dossier est évidemment et éminemment politique. Il accuse d'ailleurs le Parti démocrate d'aiguiller cette caravane de migrants. À 19 jours des élections de mi-mandat, le président compte bien faire de l'immigration légale et illégale une question centrale.
Donald Trump, plus clément vis-à-vis de Riyad, le président américain veut laisser quelques jours à l'Arabie Saoudite pour mener à bien les investigations concernant l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Mais le temps n'enlève rien à la crise internationale déjà bien présente. Riyad continue de nier et la liste des défections s'allonge. Aujourd'hui, le chef du Trésor américain Steven Mnuchin, les ministres français, britanniques et néerlandais de l'économie annoncent qu'ils n'iront pas au sommet économique saoudien qui doit avoir lieu à Riyad la semaine prochaine. Bonsoir David Rigoulet-Rose.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. L'Arabie saoudite fait-elle face à une crise sans précédent ?
Ah oui, c'est incontestablement une crise sans précédent depuis le 11 septembre finalement, dans la mesure où les effets collatéraux de l'affaire Khashoggi, l'onde de choc se fait sentir effectivement à grande échelle et notamment hypothèque le bon déroulement, le bon déroulé du Future Investment Initiative, c'est-à-dire le forum du Davos du désert prévu du 23 au 25 octobre prochain, où il y a des annulations en cascade de tous les grands patrons et personnages politiques de la planète qui se désistent justement pour ne pas se rendre sur place.
Oui, sauf qu'on a vu ces derniers temps le président américain Donald Trump rétro-pédaler, menacer Riyad de châtiments sévères, puis lui accorder le bénéfice de la présomption d'innocence. Mais en même temps, le chef du Trésor américain, Steven Mnuchin, annonce qu'il ne sera pas à Riyad. Est-ce qu'on ne serait pas finalement devant des défections de façade ?
C'est quand même un signe important que Steven Mnuchin ne se rende pas à Riyad, dans la mesure où effectivement, d'aucuns ont considéré qu'il y avait une forme de complaisance de la part du président Bush dans le fait de ménager Riyad. Or, le fait que le secrétaire au Trésor américain ne fasse pas le déplacement est quand même un indicateur qui signifie que l'administration Trump prend la mesure de la gravité de la situation.
C'est-à-dire qu'on est face à de vraies défections et de la même façon, on est face à un véritable isolement de l'Arabie saoudite ?
Oui, là, d'une certaine manière, le royaume saoudien se retrouve très isolé, effectivement, parce que les défections ont commencé par les acteurs économiques, c'est-à-dire les grands patrons, notamment américains. Et puis, aujourd'hui, ce sont les grandes institutions, Christine Lagarde, le président de la Banque mondiale, et puis les ministres de l'économie et des finances des pays occidentaux. C'est dire que, effectivement, l'isolement de Riyad se renforce et, d'une certaine manière, hypothèque aussi toute la stratégie du prince Mohammed bin Salman qui consistait à engager des réformes structurelles dans le royaume.
David Rigoulet-Rose, vous l'avez dit, le prince héritier Mohammed bin Salman se trouve isolé sur la scène internationale. Quelles répercussions cela peut avoir au niveau national ? Qu'est-ce qu'il risque ? D'être secondé, d'être démis ?
Pour l'instant, ça relève de spéculation. Ce qui objectivement est avéré, c'est que le promoteur, celui qui incarne effectivement ce plan Vision 2030, se retrouve en situation difficile puisque son forum devient presque caduque dans les faits à partir du moment où les principaux protagonistes font défaut de leur présence. Et donc ça soulève beaucoup de questions pour la suite, effectivement, et notamment par rapport à la gouvernance saoudienne. Tant que les éléments de l'enquête ne sont pas concluants et que les résultats n'ont pas été rendus publics.
Justement, ça pose des questions pour la suite. Quels sont les scénarios qui sont en train de se dessiner aujourd'hui ?
Il semblerait que les autorités saoudiennes soient dans une phase de consultation importante en interne, justement parce qu'elles ont pris la mesure de la situation qui est d'une gravité exceptionnelle. Et ça doit donner lieu certainement prochainement à un certain nombre de décisions dont on ne peut pas préjuger des résultats. Mais c'est incontestable que Riyad aujourd'hui est dans une situation comme elle l'a pas connue depuis le 11 septembre, où l'Arabie saoudite, le royaume, s'était retrouvé en situation d'accusation par rapport effectivement à certaines dérives. Et toute chose égale par ailleurs, aujourd'hui c'est un peu une configuration comparable qu'on retrouve.
Et de son côté, l'Arabie saoudite, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sortir de cette crise ? Elle a bien des leviers en sa possession. Elle peut faire quoi ? Jouer sur le prix du baril, par exemple ?
Oui, mais ça avait été une menace explicite formulée en réponse à une première menace formulée du côté américain par le président Trump quand il avait évoqué un sévère châtiment dans le cas où il serait avéré que effectivement le journaliste avait bien été tué dans les conditions qu'on suppose dramatiques. Après quoi, le président américain avait amendé un peu sa position en évoquant la possibilité d'un groupe d'agents incontrôlables qui aurait été à l'origine de la disparition du dit journaliste. Et puis, effectivement, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite n'a pas manqué de rappeler, effectivement, à cette occasion, que elle constituait un pôle de l'économie mondiale en tant que royaume pétrolier et que la stabilité mondiale était en partie dépendante d'elle.
Et on peut imaginer finalement, donc comme vous avez essayé de le dire, que Riyad s'en sorte en minimisant son implication ?
Aujourd'hui, effectivement, et l'enjeu est de trouver une sortie de crise c'est la stabilité même des intérêts de la stabilité mondiale qui est en cause, tout simplement, parce que les intérêts nationaux sont en jeu, et donc ça explique la prudence en même temps que la prise en compte de cette gravité concernant la situation.
Parce que tout le monde a à y perdre.
Ah, de toute façon, dans le contexte actuel, ça laissera des traces profondes, pas seulement dans le royaume saoudien. C'est effectivement toute une gestion, une gouvernance à la fois régionale et mondiale qui est posée, parce que il y a un certain nombre de données qui sont parasitées par des intérêts à la fois économiques et politiques, et donc d'une certaine manière tout le monde se tient, et c'est ce qui explique aussi la difficulté, la complexité de la situation.
Merci David Rigoulet-Rose. On rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef pour la revue Orient Stratégique. En France, des milliers de retraités de nouveau dans la rue. Ils manifestaient cet après-midi pour leur pouvoir d'achat. La quatrième fois en un an, c'était le cas à Paris aujourd'hui. Reportage dans le cortège de Guillaume Gaven.
Pour cette manifestation, le slogan était tout trouvé. Les retraités, grands oubliés du gouvernement, estiment-ils. Pas sûr d'ailleurs que manifester serve à quelque chose, se demandent les deux Catherine qui se sont rencontrées par hasard.
C'est pas en marchant silencieusement que ça porte ses fruits.
Mais ils s'en foutent de ça.
Les gens, il faut faire voir qu'on est en colère.
Pas sûr que ça serve, n'empêche, Catherine, 71 ans, les a toutes faites, les manifestations de retraités.
Toujours motivée, bien sûr, malgré toute l'arthrose qui m'envahit. Parce que j'en ai assez de Monsieur Macron. Il est en train d'anéantir les retraités. Avouez qu'ayant travaillé toute une vie, on pourrait quand même éviter de nous faire compter les centimes, écoutez, quand même.
Et l'autre Catherine, 65 ans, a fait ses comptes. C'est bien simple, elle ne s'y retrouve plus.
Moi, j'ai 1622 et j'ai 30 € de moins sur ma retraite par mois. C'est plus dur pour moi, je suis obligée de calculer. Moi, j'ai un loyer de 826 €, c'est la moitié de ma retraite. Donc, il y a de quoi être en colère.
Vous comptez ?
Bah bien sûr, je compte, je fais attention à ce que je dépense. C'est du racket, c'est un gouvernement racketteur.
Excédés, les retraités et leur colère ne semblent pas près de retomber.
Et selon une enquête de la CFDT, 2 Français sur 3 auraient peur d'être pauvres à l'âge de la retraite. La direction d'Air France a tranché. Elle propose aux syndicats une hausse générale des salaires de 4%. Le projet d'accord doit être signé avant demain après-midi. 5 heures pour enfoncer des portes ouvertes. Déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de la France Insoumise était entendu par la police anticorruption de Nanterre. Elle enquête sur sa campagne présidentielle et sur les assistants d'eurodéputés de son parti. Et ce qui en ressort, Willy Moreau, c'est que Jean-Luc Mélenchon reste sur la même ligne depuis le début.
Jean-Luc Mélenchon promet de faire payer le gouvernement. Le patron de la France Insoumise dénonce un traquenard après ses 5 heures d'audition. 5 heures où il a dit, répété, écrit tout ce qu'il affirme depuis les perquisitions mouvementées chez la France Insoumise. À savoir, 1, les comptes de campagne sont totalement propres. Jean-Luc Mélenchon souhaite même qu'ils soient réétudiés en entier et en même temps que ceux des autres partis. Et puis 2, il n'arrive pas à comprendre qu'on auditionne jusqu'à lundi prochain une vingtaine d'anciens assistants parlementaires. Il avoue même à demi-mot avoir oublié l'existence de certains d'entre eux. Alors, d'où viennent ces attaques ? Une seule cible pour Jean-Luc Mélenchon.
Tout ça est ridicule, Monsieur Macron, il est temps de rembobiner votre film. C'est une manœuvre politique, les fonctionnaires de police et de justice, ils obéissent, chacun dans leur service, c'est pas eux qui sont en cause. C'est une opération de police politique, mais dans cette affaire, si vous voulez, le seul qui a de mauvaise foi, c'est celui qui donne les ordres. C'est pas que ceux qui les exécutent.
Pendant l'audition de Jean-Luc Mélenchon, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a redit que les magistrats Sarah a été totalement indépendant. La justice qui va désormais s'intéresser au duel France Insoumise-Gouvernement, puisque les Insoumis promettent de déposer 5 plaintes après les perquisitions mouvementées. Tout ça en réponse à l'enquête ouverte pour menaces et violences contre des policiers par le parquet de Paris. Jean-Luc Mélenchon, toujours dans sa rhétorique, ce n'est pas moi, c'est l'État.
Merci Willy Moreau. La météo de demain vendredi, du soleil un peu partout en France, sauf dans le sud-ouest où le temps s'annonce nuageux avec parfois quelques gouttes. Pour les températures, il fera entre 7 et 14 degrés le matin jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, ça varie entre 17 et 26 degrés.